Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le domaine de la santé, l'intérêt porté à certaines maladies ne reflète pas toujours les risques réels en termes de santé publique. Et c'est particulièrement vrai pour l'affection dont nous parlons aujourd'hui dans Priorité Santé, la pneumonie. Cette infection respiratoire aiguë des poumons représente encore aujourd'hui, à l'échelle de la planète, la première cause de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans par cause infectieuse. Davantage d'enfants décèdent par exemple de la pneumonie que du paludisme. Un risque augmenté pour les organismes fragiles, malnutris, qui vivent dans un environnement, logement ou atmosphère insalubre. Dans l'émission, on va parler de la prévention, notamment de la vaccination, c'est essentiel, mais aussi du repérage des symptômes pour une prise en charge rapide. Quels sont les traitements disponibles pour éviter les complications? Comment distinguer les différents types de pneumonie? Des spécialistes à votre écoute et notre numéro WhatsApp pour poser toutes vos questions, le 33 7 71 18 46 41. Diagnostic de pneumonie, quelle prise en charge et surtout comment mieux prévenir cette maladie respiratoire? On vous retrouve dans les studios de RFI, Dr Yacine Tandjaoui-Lambiote, bonjour.
Bonjour Alain Paré.
Vous êtes le chef du service pneumologie et infectiologie de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis en région parisienne. Et au Togo, on va joindre tout à l'heure le professeur Adam Bounou, qui est pneumologue spécialiste en pathologie respiratoire liée au sommeil au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Activité physique et santé, on en parlera en fin d'émission avec notre rendez-vous avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
Alors, pneumonie plus ou moins sévère, pneumonie provoquée par différents agents infectieux. Comment, docteur Tandjaoui-Lambiote, définir cette maladie respiratoire qui peut dans certains cas guérir spontanément, mais dans d'autres donner lieu à des complications sévères, voire mortelles?
C'est une très bonne question. Quand on parle de pneumonie, on a tendance à parler de ce qu'on appelle une pneumonie aiguë communautaire, en pratique une infection due à une bactérie qui touche le poumon. Il se trouve que le poumon, c'est un organe un peu particulier parce que c'est un organe qui est en interface constante entre le monde extérieur, tout ce qu'on respire, et la partie la plus presque sacrée de notre organisme, qui est le sang. Pour vous donner un ordre d'idée, l'interface entre le sang et l'air au niveau du poumon, on est dans l'ordre du micromètre, c'est-à-dire qu'on est en gros quelque chose de beaucoup plus fin qu'un cheveu. Et donc, il y a dans le poumon des mécanismes de défense pour essayer d'éviter que tout ce qu'on respire passe directement dans notre sang et que ça ne génère pas de septicémie et donc d'infection dans le sang disséminé qui tuerait le patient. Donc, en pratique, la pneumonie, c'est la réaction qui se passe quand on a une infection d'une bactérie qui est en général localisée au poumon et que parfois, quand elle ne se localise plus au poumon et que ça évolue dans les cas les plus sévères dont vous avez parlé tout à l'heure, on peut avoir justement des septicémies, voire ce qu'on appelle des chocs septiques, des infections gravissimes qui peuvent entraîner le décès très rapidement.
Alors, cette pneumonie, elle existe dans les pays du Nord comme les pays du Sud. D'ailleurs, quand on entend les parents dire « couvre-toi, tu vas attraper une pneumonie », a priori, c'est faux, ça. C'est pas un coup de froid, une pneumonie. C'est quand même, il y a un agent incriminé qui va rendre malade.
Ouais, alors c'est... tout ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un agent incriminé, il y a toujours une bactérie qui est responsable de l'infection bactérienne. C'est pas toujours la même. Mm. C'est le plus souvent. Certaines bactéries qu'on connaît très bien, qu'on a identifiées, notamment la plus fréquente d'entre elles, s'appelle le pneumocoque. Pneumo, parce que justement, pneumonie. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas complètement faux dans l'idée de ma grand-mère qui, quand j'étais petit, me disait de mettre mon cache-col.
Ou les chaussons.
Ou les chaussons pour ne pas attraper froid. Mm. Pourquoi? Parce que ces bactéries, certes, on peut en respirer, mais le plus souvent, on les porte en nous déjà. Mmh. Et ce qui va se passer, le plus souvent, c'est qu'il peut y avoir, c'est pas toujours le cas, mais c'est assez fréquent qu'il y ait une infection due à un virus qui va entraîner des toutes petites lésions au niveau pulmonaire qui vont permettre à la bactérie qui existait déjà de proliférer et d'entraîner la pneumonie.
Un terrain favorable.
Oui, en fait, c'est une espèce de cocktail néfaste entre le virus qui va permettre à la bactérie derrière de créer la pneumonie.
Alors, elle existe partout, hein, dans le nord comme dans le sud. Est-ce qu'on peut faire une différence, par exemple, en termes d'âge des patients, où on aura un schéma un petit peu dans les pays riches, développés du nord, des patients plutôt âgés et fragiles, et dans les pays du sud, davantage, en termes quantitatifs du moins, d'enfants menacés par cette pneumonie?
Alors, les deux éléments que vous avez dit sont vrais, c'est-à-dire que la pneumonie n'est pas raciste, elle touche tous les pays du monde, et l'être humain est physiologiquement identique, qu'il soit au nord ou au sud. Toutefois, vous avez raison, il y a une différence dans la épidémiologie sur quel type de patients sont touchés. Et pourquoi ? C'est essentiellement lié à des conditions qui deviennent médicales, mais qui au départ ne le sont pas, qui sont des conditions sociales et économiques. En pratique, ce qui fait qu'il y a moins d'enfants de moins de 5 ans touchés dans les pays du Nord, dans les pays qui sont économiquement très développés, c'est que la malnutrition est inférieure infantile. La malnutrition infantile est très inférieure. Et donc, quand on a un enfant qui est bien nourri, il a tendance à mieux résister, à avoir moins de cette comorbidité dont je parlais tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un accès à la vaccination, notamment contre le pneumocoque, cette bactérie dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup plus facile dans les pays du Nord. Et donc, évidemment, la proportion d'enfants touchés par des pneumonies, notamment des pneumonies sévères dans les pays du Nord, est inférieure à celle des pays du Sud.
D'ailleurs, en termes de vaccination, hein, docteur Tandjaoui Lambiote, vous souhaitez préciser que vous n'avez pas de conflit d'intérêt en la matière.
Oui, tout à fait. C'est important parce que il faut que les auditeurs sachent un petit peu d'où on parle. Alors, j'ai des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt avec des prestataires, avec des start-up, mais pas au sujet de la vaccination ou de la pneumonie en général. J'ai un intérêt majeur, mais pas de lien d'intérêt sur le sujet.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette vaccination à l'échelle internationale? C'est vraiment quelque chose d'accessible? Ça fait partie, le vaccin contre le pneumocoque, du paquet des vaccinations obligatoires aujourd'hui en France pour les bébés. Est-ce que c'est la même chose partout sur la planète?
Alors non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, et il faut aussi percevoir... En fait, il y a deux choses distinctes. C'est que la première, c'est qu'un programme de vaccination, c'est un programme qui coûte cher à un État. Et que tous les pays du monde ne sont pas, n'ont pas les mêmes ressources à engager dans un programme de vaccination, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la pneumonie, c'est la première cause de mortalité infantile par maladie infectieuse. Donc non, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. La deuxième, c'est que même dans les pays qui sont financièrement tout à fait capables d'assumer un programme de vaccination, il y a une très grande hétérogénéité de vaccination des populations à risque. Par exemple, dans les pays du Nord, la proportion d'enfants de moins de 5 ans vaccinés est très importante. Vraiment, la population cible est quasiment intégralement atteinte, alors que ce n'est pas le cas du tout dans la population adulte. Et donc on voit bien qu'il y a là une volonté d'orienter un programme vaccinal essentiellement chez les plus fragiles, les enfants de moins de 5 ans, ce qui est tout à fait naturel, hein, je ne mets pas ça en doute, mais mon propos c'est plutôt de dire qu'on n'a pas le même engagement vaccinal sur les populations les plus fragiles âgées.
Bien définir la pneumonie, Vital de Bukavu en RDC demande comment différencier l'asthme de la pneumonie grave de la tuberculose. Alors on ne va pas parler dans le détail de ces trois grandes affections respiratoires, mais c'est quoi la différence? Est-ce qu'une tuberculose peut dégénérer en pneumonie? Est-ce qu'un asthme peut aller vers une pneumonie? Bref, est-ce qu'il y a des interconnexions entre ces trois atteintes respiratoires?
Alors ce sont trois atteintes respiratoires fréquentes en général assez différentes les unes des autres. La pneumonie, c'est une maladie qu'on va dire, donc la pneumonie bactérienne dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une maladie qu'on dit aiguë, qui survient en l'espace de quelques jours. Ce n'est pas quelque chose qui va mettre plusieurs semaines ou plusieurs mois à s'installer, à la différence d'une tuberculose. C'est le premier point. C'est une maladie aiguë, ce qui veut dire que ce n'est donc pas une maladie chronique, à la différence de l'asthme, qui n'est pas une maladie infectieuse, qui est une maladie inflammatoire, qui entraîne le fait que les gens ont une sensibilité des bronches, non pas du poumon, mais des bronches. Les bronches, c'est les tuyaux qui amènent l'air dans les poumons. Et ces bronches-là sont en général inflammées, et ça va se manifester en général par des crises de gêne respiratoire répétées, avec des sifflements en général expiratoires. Donc ça, c'est plutôt l'asthme. Et dans la pneumonie, c'est pas très fréquent d'avoir ces symptômes-là, sauf chez les asthmatiques. Puisque l'asthmatique, lui, a le droit aussi de faire une pneumonie comme tout le monde. Et cette pneumonie chez l'asthmatique peut entraîner une crise d'asthme.
Alors, Autre question, cette fois toujours vitale, hein, qui est très curieux, sur la pleurésie, c'est quoi la différence? Le mot se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Pleurésie, pneumonie.
Ah, ça, c'est une excellente question. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'au 19e siècle, on ne savait pas faire la différence entre les deux. Donc, dans l'histoire de la médecine, les plus grands médecins de l'histoire de la médecine ont toujours appelé pleurésie, pneumonie. Pour eux, c'était une seule entité. Et c'était une seule entité parce qu'on n'avait pas les moyens diagnostiques de faire la part des choses entre les deux. Depuis qu'on a un stéthoscope, donc depuis en gros le médecin français, ben Lavoisier, on est capable de différencier un peu les deux. Et il se trouve qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux parce que la pneumonie, quand elle se complique, peut entraîner le fait de développer une irritation de la plèvre. La plèvre, c'est l'enveloppe du poumon. Et lorsque cette enveloppe du poumon est irritée, elle va fabriquer du liquide. Ce liquide dans l'enveloppe du poumon, c'est ça une pleurésie. Il y a des pleurésies qui sont satellites des pneumonies. Elles sont très fréquentes. On appelle ça une pleurésie parapneumonique. Et puis, il y a beaucoup d'autres pleurésies dont les causes sont diverses et variées, qui n'ont absolument rien à voir avec la pneumonie. Donc, c'est important de bien nommer les choses. Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'était ajouter du malheur au monde. Et ben, c'est exactement ça. Savoir si c'est une pleurésie ou si c'est une pneumonie, ça permet justement de, en ciblant exactement le type de pathologie, avoir le traitement adéquat.
Et l'examen clinique fait la différence?
L'examen clinique peut permettre de faire la différence. En fait, depuis que... Et bien sûr, classiquement, on retient que dans les études internationales, pour retenir un diagnostic de pneumonie, il nous faut des signes respiratoires, donc de la toux, de la gêne respiratoire, de la fièvre, et une image anormale à la radio. Il y a quand même des situations cliniques où, en l'absence de radiologie, on est capable de faire un diagnostic de pneumonie. Si on a ça va parler aux étudiants en médecine, aux médecins qui nous écoutent, mais ce qu'on appelle un foyer de crépitant, c'est-à-dire au stéthoscope, un endroit vraiment très focal, très localisé, un endroit du poumon où on a des anomalies qui sont caractéristiques du fait qu'il y ait du liquide dans les alvéoles pulmonaires, avec de la fièvre et de signes respiratoires, ça, c'est un diagnostic de pneumonie.
On va prendre un premier témoignage, justement, une illustration. On va partir tout de suite pour le Cameroun.
RFI à Douala.
Et en ligne avec nous, c'est Claude. Claude, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on va évoquer le cas de votre garçon. C'est un cas difficile parce que votre petit garçon est aujourd'hui décédé. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances votre famille a été confrontée à ce drame? Comment vous avez connu cette maladie, la pneumonie?
Alors, bonjour Caroline. Moi, je suis un peu heureux de repasser dans cette émission. J'ai un peu d'émotion qui me traverse, c'est vrai, quand vous l'évoquez. Mais en fait, je suis allé à l'hôpital après que j'ai senti qu'il se sentait très mal à l'aise. En fait, il toussait trop fort et il avait du mal à respirer. Donc, à ce premier-ci, je suis allé à l'hôpital. Et à l'hôpital, franchement, j'étais outré de voir la façon dont la prise en charge a été faite. Et quelques jours après, il est mort.
Donc, voilà. Moi, j'ai des questions, Claude, excusez-moi. Il avait quel âge, le petit, à ce moment-là?
Il avait 2 ans.
Il y a eu combien de temps entre les premières toux et la consultation à l'hôpital?
Je te dis à peu près 48 heures.
48 heures. Et quand vous dites j'ai été outré par l'accueil, par ce qui a été fait, pourquoi? Qu'est-ce qui a manqué d'après vous? Qu'est-ce qui n'allait pas?
Ben Caroline, je vais vous dire sincèrement, au Cameroun, certains s'y retrouvent par infraction à l'hôpital. Franchement, ce n'est pas leur vocation. D'autres viennent juste chercher de l'argent. Donc, je me dis déjà, si on l'administrait, n'était pas approprié. Et ça m'a touché, vraiment.
On vous a dit le diagnostic? On vous a dit, monsieur, votre petit garçon souffre d'une pneumonie? Vous avez entendu ce mot-là?
Là, jamais. Jamais. Ça qui me touche encore plus.
Oui. Mais pourquoi vous savez que c'était ça, la maladie?
Mais après, je suis allé sur Internet, comme aujourd'hui, Internet nous permet de connaître un peu quelque chose. Je suis allé sur Internet de chercher à savoir pourquoi il respirait de cette manière, pourquoi il avait la peine à pouvoir manger, s'alimenter, à tousser, pourquoi il toussait autant.
C'est allé très très vite, en fait, pour votre petit garçon, hein, Claude?
Pardon?
C'est allé très vite entre les symptômes et l'issue fatale, c'est allé très très vite?
Oui, très très vite, vraiment, très très vite. Et c'est ça... ça me chagrine encore vraiment.
On peut tout à fait le comprendre. Claude, on écoute les questions que vous souhaitez poser à notre invité, je vous en prie.
Je dis bonjour à cet invité. J'en profite pour dire également bonjour à vos sympathiques collaboratrices qui m'ont pris au téléphone. Et d'ailleurs, bonjour monsieur le docteur. Je sais que vous avez peut-être parlé de comment est-ce qu'on attrape la maladie, mais n'empêche, je vais pouvoir poser mes questions peut-être pour revenir dessus pour en savoir un peu plus. Alors, je voulais savoir comment est-ce qu'on attrape la pneumonie.
Oui.
Et dès lors, même quand on n'a pas la puce à l'oreille, quels sont les symptômes qui puissent nous amener à savoir que c'est une pneumonie? Et déjà, quelle est la conduite? Parce que je vous assure, je ne savais pas ce qu'il fallait faire dès le début. Alors, je voulais savoir quelle est la conduite à tenir quand on a une progéniture qui atteint de cette maladie.
Mm-hmm.
Et ma dernière question, c'est certainement savoir comment est-ce qu'on la prévient. Parce que moi, je suis surpris que c'est arrivé à mon enfant. Parce que très généralement, je joue sur la prévention. Mais hélas, franchement, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je vous ai entendu parler du vaccin. Et
oui.
Je me demande bien, est-ce que ce vaccin-là, je l'ai sauté ou pas? Ou est-ce que c'est parce qu'on ne le faisait pas? Franchement, je suis un peu perdu.
Vous êtes perdu. Donc déjà sur la transmission et les signes qui doivent alerter les parents, docteur Yacine Tandjaoui-Lambiote, qu'est-ce que vous pouvez dire à Claude ?
Bonjour Claude. D'abord merci pour votre témoignage dans lequel on note l'émotion et on vous remercie d'avoir pris à la fois le temps et l'énergie pour nous transmettre ces informations. Ce que vous avez décrit pour votre fils est quelque chose d'évidemment terrible. C'est quelque chose de malheureusement fréquent. Fréquent parce que, comme on le disait tout à l'heure, la pneumonie reste malheureusement une infection fréquente et la première cause de mortalité infantile par maladie infectieuse chez les enfants de moins de 5 ans. Pour essayer de répondre à vos questions, notamment sur le fait que comment on l'attrape, une des questions que j'imagine vous devez vous poser, en tout cas que vous avez dû vous poser, c'est peut-être de vous dire est-ce que c'est moi qui ai donné cette pneumonie à mon enfant? Et ça, il faut vous retirer ça de la tête. La pneumonie bactérienne, le plus souvent, n'est pas une maladie à transmission interhumaine. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a une pneumonie et qu'il sera à côté d'une autre qu'il va transmettre la pneumonie à quelqu'un d'autre. Quand on parle de pneumonie, on n'est pas dans le même cas que la tuberculose. Le plus souvent, la bactérie qui entraîne la pneumonie est une bactérie qu'on porte déjà en soi. Ce qui peut faire le lit de cette infection due à une bactérie, c'est le fait qu'il y ait soit une faiblesse de l'organisme, à cause d'une malnutrition, à cause de ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées, le fait d'avoir des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires, d'avoir des problèmes de système immunitaire. Ou alors, ce qui peut aussi entraîner, faire le lit de l'infection, c'est le fait d'avoir attrapé une maladie qui, elle, peut se transmettre entre êtres humains, qui sont les maladies virales respiratoires, la grippe ou le Covid. Donc ça, c'était plutôt pour la question comment est-ce qu'on peut attraper la pneumonie.
Les signes, les signes annonciateurs et les signes qui doivent faire vite aller au centre de santé.
Ça, c'est chez l'adulte, c'est plus facile que chez l'enfant. Surtout chez l'enfant non-verbal. Parce que quand l'enfant n'est pas encore doué de langage, il ne peut pas exprimer le fait qu'il est gêné pour respirer. Alors que ça reste quand même un des signes essentiels d'alerte chez les adultes. Classiquement, les signes de l'infection pulmonaire, enfin de la pneumonie chez l'adulte, c'est une gêne respiratoire, de la toux, de la fièvre, parfois une douleur dans la poitrine, mais qui n'est pas constante. Et lorsqu'elle survient, cette douleur, elle est le signe du fait que l'enveloppe du poumon commence à être irritée, la fameuse pleurésie dont on parlait tout à l'heure. Chez l'enfant, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas forcément de langage verbal et que les signes sont souvent, même quand l'enfant a un langage verbal, il peut y avoir des signes avec des espèces de douleurs projetées. Souvent, chez l'enfant, la douleur abdominale peut être un signe qui peut évoquer un peu tout et n'importe quoi, et notamment la pneumonie.
Ça veut dire qu'un enfant pris en charge assez tôt avec des antibiotiques, il y a de très bonnes chances de le sauver. On est concret là dans la réponse concrète.
Alors, je vais répondre à cette question-là, mais juste pour comprendre bien que le diagnostic de la pneumonie chez l'enfant étant difficile, on fait souvent malheureusement le diagnostic à un moment où il commence à y avoir des signes de détresse respiratoire. Les enfants commencent à être très gênés pour respirer, et souvent c'est un peu tard. Ensuite, est-ce que les antibiotiques peuvent guérir à 100% toutes les pneumonies? 100%, c'est non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a beau avoir fait des progrès exceptionnels en termes de traitement de la pneumonie, depuis qu'on a des antibiotiques, on a la chance d'avoir aujourd'hui quand même l'immense majorité des infections pulmonaires dues à des bactéries sont assez rarement dues à des bactéries très résistantes aux antibiotiques, alors que l'antibiorésistance est un problème partout dans le monde. C'est vrai pour beaucoup d'autres infections dans d'autres organes. Dans le poumon, aujourd'hui, c'est moins vrai. Mais les antibiotiques permettent de guérir l'immense majorité, mais pas toutes.
Et c'est pour ça, justement, qu'on insiste autant sur la vaccination. On vous remercie infiniment, Claude, pour votre appel. Merci beaucoup. Docteur, à venir, d'autres questions d'auditeurs. On ira aussi rejoindre l'un de vos confrères en ligne du Togo. On va se retrouver juste après un titre. C'est votre choix musical, De circonstances, Lightning Hopkins, Pneumonia Blues, sur RFI.
Oh, you know I'm making all low. You know I believe I got a pneumonia this time. Whoa, you know I'm making all low now, baby. You know I believe I got a pneumonia this time. Yeah, you know my head hurts.
Priorité santé sur RFI, on parle de la pneumonie, l'importance de la vaccination. Nous sommes toujours en compagnie du chef du service pneumologie et infectiologie de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, docteur Yacine Tandjaoui-Lambiot. On va prendre un appel d'auditeur de la RDC en ligne de Baraka dans le sud Kivu. C'est Eric, il a envoyé ce message sur WhatsApp au 33 761 18 46 41. On l'écoute tout de suite.
Bonjour RFI, je m'appelle Eric Mutamba, je viens de la République démocratique du Congo. Au sud de Kivu, dans la ville de Baraka. Et au problème de la pneumonie, j'avais connu un tel cas avec mon enfant l'année passée. Mais Dieu aidant, il se porte maintenant bien. Les symptômes étaient surtout difficulté à respirer. Aussi, il frissonnait. Il se sentait aussi fatigué, mangeait difficilement. Mais quand même, on avait été traité. Il y a eu des médicaments qu'on a injectés là-bas et d'autres comprimés. Mais jusqu'à présent, il se porte bien. Mais seulement, je voudrais savoir à l'invité comment on peut s'occuper d'un enfant qui a une pneumonie quand on habite loin d'un hôpital, par exemple. Et comme il fait très froid ici, en RDC, surtout à l'est, comment on peut vivre vis-à-vis de ces milieux physiques où il fait froid, parfois il pleut, les enfants se jettent dans l'eau stagnante. Ce sont les problèmes que je voudrais savoir. Merci beaucoup.
Préoccupation d'un papa, docteur Yacine Tandjaoui, lambiote, frissons, détresse respiratoire, fatigue, il a bien décrit ses symptômes. Comment protéger les enfants et aussi comment les prendre en charge quand on habite loin d'un grand hôpital? C'est très concret, mais c'est ce que vivent beaucoup d'auditeurs.
Enfin, les questions sont très légitimes. Hein. C'est pas toujours facile de répondre à ces questions-là. Ce qu'on peut dire, c'est que les symptômes qui ont été évoqués par ce papa, par Eric, si je me rappelle bien, ils sont très pertinents. C'est souvent des signes qu'on voit, c'est-à-dire un jeune enfant qui commence à avoir une infection respiratoire bactérienne, c'est souvent un enfant qui va être donc gêné pour respirer. En général, il va commencer à respirer vite, anormalement vite, et il va avoir de la fièvre, de la toux, des signes respiratoires. Il peut avoir des douleurs abdominales, mais ce n'est pas constant du tout. Et puis souvent, il va avoir ce qu'on appelle une altération de l'état général. En pratique, il va commencer à avoir envie, il va être fatigué, à moins bouger, à moins s'alimenter. Un enfant qui ne s'alimente pas et qui ne bouge pas, avec
et
de la fièvre...
qui ne joue plus, ça c'est quelque chose qui ne sourit plus.
Ouais, ouais. Ça, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal et ça doit être un signe d'alerte qui doit les faire consulter et faire consulter rapidement. Parce que ça peut être bien sûr une pneumonie, mais ça peut être aussi une autre infection qu'une pneumonie qui peut aussi se manifester avec des symptômes similaires, mais qui dans tous les cas, s'il y a de la fièvre et ces signes-là, peut être préoccupante.
Mais en tout cas, le conseil, même quand on n'a pas un hôpital, on va au centre de santé le plus proche et l'agent qui sera sur place pourra référer vers l'hôpital et dire là vraiment il ne faut pas perdre de temps pour y aller, c'est ça qui est important, en parler à un soignant.
Oui, ça reste quelque chose d'assez fondamental. Quand on a des signes d'inquiétude sur une pathologie aiguë, potentiellement sévère, surtout chez quelqu'un de fragile comme un jeune enfant, quand les signes comme cela s'installent, il faut consulter. Il faut consulter un soignant qui, en fonction de l'écosystème local du système sanitaire, va permettre soit de le prendre en charge directement ou de le référer aux personnes qui permettront d'avoir les soins appropriés.
Alors, on reste en RDC avec Berverly maintenant avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Caroline, bonjour à l'invité.
Alors, 33 ans, vous a diagnostiqué une infection pulmonaire. C'était il y a combien de temps, Berverly?
C'était justement au mois de juillet, donc il y a, je crois, 3 mois.
Vous aviez des symptômes depuis combien de temps?
Alors, j'ai dû supporter pendant plus ou moins 2 mois parce que j'ai commencé à constater des symptômes à partir du mois d'avril. J'ai dû supporter pendant 2 mois, mais au finish, j'étais obligé d'aller consulter un médecin.
Vous dites supporter, en fait. Vous supportiez quoi comme problème de santé? C'était quoi ce qui vous gênait précisément?
J'écoute que je suis journaliste, mon type prédicateur évangélique. Alors, les micros, c'est presque mon quotidien. Alors, j'ai commencé à constater des petits essoufflements, surtout quand je suis en pleine émission. Alors, hormis cela, il y avait la toux, une toux vraiment sévère qui ne diminuait pas alors que j'ai tenté avec l'automédication, toujours pas. Et les thorax aussi, il y avait beaucoup de douleurs au niveau du thorax. Alors tous ces symptômes m'ont quand même obligé d'aller consulter le médecin.
Vous avez passé des examens, Berverly?
Oui, finalement j'étais allé consulter un médecin. C'était un généraliste et c'est là qu'il m'avait envoyé au niveau du service d'imagerie médicale. C'est là qu'on m'avait consulté d'être atteint d'une infection pulmonaire bilatérale.
Donc, on imagine que vous avez pris un traitement. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport aux séquelles, on va dire, de cette infection pulmonaire? Est-ce que vous allez bien ou est-ce que vous avez encore de la gêne?
Alors, j'ai suivi les traitements. J'ai quand même senti qu'il y avait vraiment de l'amélioration. Sauf que jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours quelques difficultés au niveau du thorax. Parce que le médecin généraliste m'avait dit que la maladie, c'est souvent causée par l'abus excessif de l'alcool, soit par le tabagisme, ou par la poussière. Alors, moi, je ne prends ni de l'alcool, ni de la cigarette. Alors, ça pourrait être, à mon avis, la poussière. Notre environnement est trop poussiéré. Alors, jusqu'aujourd'hui, Des acides de la poussière, en tout cas les thorax, c'est mal. Donc je suis condamné à me déplacer avec un masque, même à l'intérieur des maisons.
Donc vous portez un masque en permanence. Pourquoi ? Parce que vous avez peur d'une rechute, c'est ça ?
Oui, premièrement, peur d'une rechute, mais deuxièmement, c'est douleur au niveau du thorax, vraiment, fait du jour au lendemain, parce que ça ne finit toujours pas.
Une question importante, donc, sur ces, on va dire, ces séquelles, encore aujourd'hui, 2 mois après l'infection, en tout cas le diagnostic, docteur Yacine Tandjaoui-Lambiot, qu'est-ce que vous pouvez dire à Beverly ? Lui, porte un masque pour se préserver de la poussière ou de la pollution, mais comment expliquer qu'il a encore une pression thoracique et cette gêne qui résiste ?
Bonjour Beverly, merci pour votre témoignage. Y a deux éléments sur lesquels je voudrais revenir sur ce que vous dites là et qui sont des choses qui me paraissent très importantes. La première, c'est que vous dites que vous avez des symptômes depuis finalement plusieurs mois. La maladie pulmonaire, l'infection pulmonaire bactérienne, c'est plutôt une maladie aiguë. Aigu, ça veut dire qu'il apparaît en quelques jours et qui arrive à son état en l'espace de quelques jours, maximum une semaine, avant de disparaître ou non. Je dis ou non parce qu'il existe parfois des symptômes qui peuvent durer dans le temps dans deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le fait d'avoir une irritation au niveau notamment des bronches qui vivront dans les suites de la pneumonie, qui peuvent entraîner le fait que les gens toussent longtemps. Typiquement, c'est ce qu'on voit dans la coqueluche. Pour vous donner un ordre d'idée, la coqueluche en chinois, ça se dit la toux des 100 jours. Donc on tousse pendant 100 jours, donc pendant 3 mois. La deuxième, c'est que il existe chez certains patients des séquelles de l'infection pulmonaire dont ils peuvent avoir guéri, mais qui peuvent garder des séquelles au décours. Et si c'est le cas, il peut y avoir des symptômes respiratoires qui durent dans le temps. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est une des questions qu'on pourrait se poser. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, et ce sur lequel vous revenez, c'est le fait qu'on vous a dit que potentiellement c'était quelque chose qui était lié à la consommation d'alcool, de tabac ou à l'inhalation de poussière. L'alcool, c'est rarement un problème dans la pneumonie, ou en tout cas, ça peut être un problème qui va donner des maladies du foie, qui peuvent être une comorbidité, donc un facteur de fragilité. Mais ce n'est pas l'alcool qui va entraîner la pneumonie. À la différence du tabac, où on sait que la consommation de tabac est, elle, associée à un sur-risque de pneumonie, ça c'est certain. Mais de toute façon, ce n'est pas votre cas, là. Et ensuite, vous parlez d'inhalation de poussière. Ça, c'est quelque chose de très important, mais dont il est moins facile de faire état. État dans le sens où le lien entre la bactérie responsable de la pneumonie et l'inhalation de poussière n'est pas évident. En revanche, l'inhalation de poussière entraîne des maladies respiratoires qui peuvent être de multiples formes, au point que il y a même, pour rester dans la thématique un peu de musique blues qu'on vient d'écouter, il y a un autre morceau de blues qui s'appelle « Dust Pneumonia », la pneumonie de la poussière. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une maladie infectieuse, c'est une maladie pulmonaire, mais qui n'est pas liée à une bactérie.
Qui est liée à l'environnement, si j'ai bien compris.
Absolument.
On vous remercie beaucoup, Humbert Verly. Bon courage pour la suite. On part maintenant pour le Togo.
RFI à Lomé.
Et avec nous, professeur Stéphane Adambounou. Bonjour, professeur.
Bonjour, madame Caroline Paré. Bonjour, docteur Tandjaoui-Lambiot.
Alors, vous êtes pneumologue spécialiste en pathologie respiratoire liée au sommeil au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Professeur, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'incidence comme des risques associés à la pneumonie dans votre pays, le Togo ?
Alors, merci bien. L'incidence de la pneumonie au Togo est globalement, selon les données statistiques, de l'ordre de 3500 à 4500 pour 100 000 habitants. Et il est possible que ces chiffres soient un peu sous-estimés si on suppose que les formes mineures, les patients qui ont des cas de pneumonie mineure ne se présentent pas forcément en consultation. Et globalement, le taux de décès pour les formes sévères est de l'ordre de 6,5%.
Ces décès, justement, ces issues fatales de cette maladie, concernent qui essentiellement ? Les enfants, les jeunes enfants ?
Alors, concernent les jeunes enfants qui sont dénutris, des jeunes enfants qui n'ont pas bénéficié du vaccin contre le pneumocoque, et des enfants qui également ont des comorbidités comme le diabète néonatal, mais aussi des personnes âgées qui sont drépanocytaires, diabétiques, qui ont une infection à VIH ou qui sont dénutrées.
Vous avez parlé de la vaccination. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cet état de la vaccination au Togo? Est-ce qu'il y a une bonne couverture vaccinale?
Alors, il faut préciser déjà que le vaccin a été introduit au Togo il y a une dizaine d'années. Mmh. En fait, dans le programme élargi de vaccination. Mmh. Et en 2020, on avait un taux de couverture de 89%
d'enfants de moins de 16 ans. Excusez-moi, quand on dit programme élargi de vaccination, ça veut dire qu'en gros, ça ne coûte pas aux familles, hein, c'est ça?
C'est entièrement gratuit pour les enfants. Il y a un certain nombre de vaccins qui sont administrés aux enfants de moins de 5 ans, totalement gratuits. Mmh. Et donc, en 2020, oui. La couverture vaccinale était de 89%. Et ça atteint 92% en 2023.
Alors, on sait qu'en général, il y a des statistiques qui sont excellentes au niveau national. Qu'est-ce qui se passe maintenant, cas par cas, notamment en milieu rural? Est-ce qu'on est parfois dans des configurations où on a des ruptures d'approvisionnement?
Alors, on n'a pas de problème de rupture d'approvisionnement puisque le système est quand même assez bien huilé. Il faut dire que le système de santé est fait que les directions préfectorales de santé s'approvisionnent en vaccins et se charge de distribuer dans les hôpitaux périphériques. Donc, il n'y a pas de... Encore que c'est subventionné par l'État et les bailleurs de fonds qui approvisionnent ces centres en vaccins.
Donc, on va dire que ça se passe plutôt bien pour les jeunes enfants. Maintenant, la recommandation vaccinale, on a entendu les personnes, on va dire, fragiles, drépanocytose, immunodépression, quand on a une tuberculose, quand on a un VIH, les conséquences d'un palu. Dans ces cas-là, le vaccin, il est à la charge du patient? C'est à la charge de qui?
Dans ce cas-là, le vaccin est à la charge du patient.
Et ça représente une somme, hein, quand même?
Oui, c'est de l'ordre de 28 francs, l'équivalent de 44 euros. Mmh. Le problème qui se pose dans cette situation, c'est que les personnes âgées sont prises en charge par des médecins non pédiatres, mais qui ne pensent pas toujours à faire la prévention contre la pneumonie.
Quelque chose d'important, justement, dans votre contexte, peut-être encore plus que ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est le rôle vraiment essentiel que peuvent jouer les agents de santé communautaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils peuvent agir contre la pneumonie, pour la santé, notamment dans le cadre de la sensibilisation et aussi de la prise en charge des premiers symptômes?
Absolument. Alors, les agents de santé communautaire, ce sont des personnes qui vivent dans la communauté, donc avec les habitants de la communauté, et qui sont formés sur certaines thématiques, notamment quand je prends la pneumonie. Donc, lorsque on a des parents qui sont réticents à la vaccination, ces agents de santé communautaire-là servent de pont entre le système de santé et les parents pour leur expliquer les bienfaits de la vaccination. Et ils vont également aider à détecter des cas qui doivent rapidement être envoyés dans les hôpitaux pour une prise en charge efficace.
Ça veut dire que, par exemple, au village, ils vont aller de maison en maison, ils vont frapper aux portes, ils vont repérer s'il y a un enfant qui a de la fièvre et avoir en tête toute une symptomatologie, ça veut dire par ce mot compliqué, ils connaissent tous les premiers signes de la maladie qu'ils peuvent repérer comme ça, tac, 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 et agir au plus vite.
Absolument, ils sont formés à identifier les symptômes qui sont évocateurs de la maladie et ils doivent inciter les parents à conduire l'enfant à l'hôpital pour la prise en charge.
Une prise en charge très concrète qui peut sauver des vies. Un grand merci à vous pour toutes ces informations, professeur Adam Bounou. Très bonne journée à Lomé. Docteur Yacine Tandjaoui-Lambiote, on arrive à la conclusion de notre échange. L'été dernier, l'OMS a alerté sur une super bactérie, hein, j'ai lu ça. Klebsiella pneumoniae, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? C'est quoi cet agent méchant infectieux?
Il a toujours existé.
Ouais.
Ce nom latin un peu barbare correspond en fait à une bactérie que l'immense majorité des êtres humains portent en nous et qui, dans certaines situations, peut être responsable d'infections. Il se trouve qu'il peut y avoir certaines formes de... certaines sous-catégories de Klebsiella pneumoniae donc, qui peuvent avoir ce qu'on appelle des facteurs de virulence. Ce mot technique, là, c'est pour dire qu'en gros, elles sont peut-être très agressives. En général, les bactéries, on a peur d'elles dans deux circonstances. Soit parce qu'elles sont très virulentes, donc en gros, elles ont un arsenal d'attaque extrêmement développé, elles peuvent être très agressives, ou alors parce qu'elles ont un grand mécanisme de résistance aux antibiotiques. En gros, elles ont un bouclier qui leur permet de se défendre. En général, ce que je dis là est schématique, donc faux. Hein, parce que Paul Valéry disait tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui n'est pas inutilisable, donc on va faire simple. Les bactéries qui sont les plus virulentes, en général, ne sont pas très résistantes aux antibiotiques. En revanche, les bactéries qui sont très résistantes, en général, ne sont pas trop virulentes. C'est schématique, donc c'est faux, mais en gros, ça veut dire que cette bactérie, elle est capable d'être très, très agressive et d'entraîner des infections très sévères.
En tout cas, on a compris qu'il y a encore beaucoup de choses à dire au sujet de la pneumonie. Ça veut dire qu'on va se retrouver pour faire d'autres émissions sur ce sujet. On le dit, il faut en parler. C'est pas parce que c'est une maladie qui est moins sous les radars qu'il faut baisser la vigilance. Un grand merci à vous, docteur Yacine Tandjaoui-Lambiote. Dans quelques instants, on va parler du sport, précisément natation. On plonge juste après Aria Sigaïodi avec Boukanak. C'est le moment de parler activité physique et santé. Notre rendez-vous avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. Docteur Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors une question que se posent peut-être celles qui ont déjà passé le cap des 30, 40, 50 ans et qui ne savent pas nager d'une certaine manière. On peut penser que c'est trop tard ou que l'eau n'est pas vraiment notre élément. Docteur Sen, vous allez démontrer que c'est possible. En fait, il n'est jamais trop tard pour apprendre.
Et oui, il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre à nager. Évidemment, du bébé nageur au senior, tout le monde peut s'y mettre à tout âge. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante à retenir. Alors, c'est vrai qu'on pense que c'est plus facile pour les enfants, mais les adultes sont tout à fait capables d'apprendre à nager. Hein, ils flottent même sans aucun problème, comme les enfants de la même façon. Le tout, c'est d'avoir une motivation et des capacités d'apprentissage qui existe évidemment à l'âge adulte. Alors, les avantages de se lancer lorsqu'on est adulte, c'est de prendre bien sûr cette décision, d'être véritablement volontaire, la capacité de comprendre et de mémoriser les techniques. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, est développé lorsqu'on est adulte. Et puis, il y aura des bienfaits pour la santé. C'est doux pour les articulations. Donc, quand on commence à avoir un peu d'arthrose ou d'usure articulaire, c'est plutôt intéressant. C'est une activité qui est excellente pour le cœur et la circulation. Ça permet de prévenir certaines et pas mal de pathologies. Et puis, ça tonifie le corps. Hein. Ça renforce les muscles posturaux. Quelquefois, on a mal au dos quand on prend de l'âge. Et là aussi, la natation, c'est une bonne chose.
Et quand on hésite parce qu'on a d'une certaine manière peur de l'eau, docteur Sen, est-ce qu'il y a des conseils pour surmonter cette appréhension, commencer à nager en toute confiance?
Alors c'est vrai que le fait d'avoir peur de l'eau, c'est une crainte qui est commune et qui est logique, surtout si on ne sait pas nager. Le tout, c'est d'être progressif, de surmonter sa peur et de se familiariser avec l'eau, étape par étape. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi d'être dans un environnement qui est aquatique, mais qui est en sécurité. Être accompagné éventuellement, ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Alors, il ne faudra pas hésiter à utiliser des ceintures de flottaison, par exemple, au niveau du tour de l'abdomen. Hein, ça permet d'aider. Et puis, d'être accompagné, parce que éventuellement ça améliore bien sûr la sécurité. Et puis, si on est accompagné par quelqu'un qui est agréable, bien, ça permet d'avoir des bons souvenirs.
Alors, docteur Sen, on entend parfois des histoires de personnes qui sont poussées dans l'eau hein, pour vaincre leur peur. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il y a des approches plus douces pour aider justement à surmonter cette fameuse peur de l'eau?
Oh mon Dieu, quelle horreur! Non, bien sûr, il ne faut
on
pas.
On ne jette pas le bébé à l'eau, c'est une voilà. Très mauvaise idée.
C'est une mauvaise idée. L'idée, c'est d'avoir un premier contact avec l'eau. Alors, on fait ça en quelques étapes. Les pieds et les jambes, on peut s'asseoir au bord du bassin, sur le côté peu profond. On plonge les pieds dans l'eau, on remue doucement pour s'habituer à la sensation de l'eau. Et puis, on peut s'immerger progressivement comme ça jusqu'aux genoux en restant assis, stable, en sécurité, c'est bien. Pareil pour les bras, hein, on peut s'agenouiller au bord du bassin, commencer à mettre les doigts, l'avant-bras, le bras par des mouvements légers. Bref, on s'habitue à être immergé dans l'eau. Et puis ensuite, lorsqu'on a bien cette habitude, on peut intégrer des battements des jambes, toujours au bord, et battre les jambes progressivement pour commencer comme ça à s'habituer à flotter et à bouger dans l'eau pour ne pas être quelque chose de trop traumatisant.
Docteur Sen, si on fait un petit peu un récapitulatif des conseils justement pour aider celles et ceux qui ont envie d'apprendre à nager à tout âge.
Eh bien, l'idée, c'est de suivre les cours de natation pour tous. Ça, c'est essentiel pour apprendre à nager. On peut même prendre des cours individuels. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, que le maître nageur qualifié va bien vous guider à travers les étapes d'apprentissage. Alors, il y a des équipements qui sont utiles, hein, les ceintures de flottaison abdominale, le fait de prendre des planches de natation ou des frites en mousse, pourquoi pas. Tout ça, ce sont des choses qui pourront évidemment vous aider à nager. Alors voilà, j'espère que grâce à cette chronique, nos chers auditeurs n'hésiteront pas à se mouiller.
Et encore un petit jeu de mots en conclusion. Merci beaucoup, docteur Sen. Ça fait partie aussi du plaisir de vous retrouver toutes les semaines. À très bientôt. Et merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pouo, Didier Bleu et Thierry Le Saint à la réalisation. Demain, à l'occasion de la journée mondiale du diabète dans Priorité Santé, vous pourrez poser vos questions à nos invités sur cette maladie chronique. Prévention, traitement, alimentation, comment éviter les complications, quelle prise en charge? On se donne rendez-vous bien sûr dès 9h du temps universel. Et d'ici là, restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque